Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Je vous propose aujourd'hui de lever les yeux vers le sommet du ciel pour observer une discrète mais néanmoins très repérable constellation qui s'appelle la couronne boréale. Elle est effectivement formée d'étoiles disposées en arc de cercle. L'étoile centrale, Alpheca, est la plus brillante des formes un diadème. Elle est le pendant septentrional de la couronne australe que vous aurez l'occasion d'admirer près de la constellation du Sagittaire si vous êtes dans l'hémisphère sud. Boréale venant du latin borealis qui signifie le nord. La couronne boréale est visible toute la nuit en été. La mythologie grecque rapporte que la couronne boréale aurait été formée par Héphaïstos, le dieu de la forge et des volcans, à partir d'or et de pierres précieuses venant de l'Inde, dont le brillant éclat servait à éclairer Thésée dans les sentiers obscurs du labyrinthe. Cette couronne aurait été offerte à Ariane. Ariane, la belle Ariane, est la fille du roi de Crète, Minos, et de Pasiphaé, celle qui brille pour tous, la fille d'Hélios, le soleil. Ariane a donc une double ascendance, royale et divine. Pour autant, sa vie ne sera pas facile. Elle appartient à la famille des amoureuses maudites. Sa mère, Pasiphaé, est victime d'une vengeance de Poséidon et succombe à sa folle passion pour un superbe taureau et donne naissance, après son union avec lui, au Minotaure, ce monstre hybride mi-homme, mi-taureau, qui a été caché dans un labyrinthe et que Thésée entreprend de tuer. Quant à sa sœur, Phèdre, elle épouse ultérieurement Thésée avant de brûler d'un amour incestueux pour le fils de son époux Hippolyte. L'aventure d'Ariane débute pour nous lorsqu'elle s'éprend du héros Thésée. Thésée, fils du roi athénien Égée, débarque en Crète avec 6 autres jeunes hommes et 7 jeunes femmes pour être livré en tribut au Minotaure. Il est bien décidé à mettre fin à ce sanglant sacrifice qui se déroule chaque année, ou tous les 9 ans selon les versions. Il est prêt à en découdre et à tuer la créature fabuleuse. Aidé par Aphrodite, il inspire l'amour à la jeune princesse crétoise Ariane qui lui apporte son aide précieuse. Elle lui divulgue diverses informations et lui remet une pelote de fil, fournie par Dédale, le concepteur du labyrinthe dans lequel se trouve le Minotaure. C'est ainsi que notre jeune héros peut retrouver sa voie et sortir vainqueur de cette épreuve. Ariane, qui aime éperdument Thésée, le suit dans son retour vers Athènes, mais Thésée l'abandonne sur l'île de Naxos. Survient alors Dionysos, dieu des vins et des théâtres, qui a le pouvoir de changer de forme. Il rencontre Ariane sous les traits d'un beau jeune homme. Ce jour-là, elle était profondément endormie, épuisée d'avoir tant pleuré la perte de Thésée. Elle lui a coupé le souffle, elle était si belle. Il attendit patiemment qu'Ariane ouvre les yeux. Elle vit un beau jeune homme qui la regardait avec admiration. Ariane se sentit immédiatement mieux. Elle raconta à Dionysos ses nobles efforts pour sauver Thésée et les enfants d'Athènes. « Et regardez où ça m'a mené, » renifla-t-elle. « Mais pauvre petite chose, » dit Dionysos avec beaucoup de sympathie. Il demanda immédiatement à la charmante et jeune Ariane de l'épouser. Ariane, ne se sentant plus délaissée ou sans amis, est ravie d'être admirée par ce beau jeune homme, manifestement riche car il avait de très beaux vêtements, consentit à devenir sa femme. Et croyez-le ou non, Ariane et Dionysos vécurent heureux pour toujours. Afin de pouvoir toujours vivre ensemble, Dionysos lança la couronne d'Ariane dans le ciel, affirmant ainsi à la jeune fille son appartenance à la caste des dieux de l'Olympe. Dans la mythologie des Indiens Blackfoot d'Amérique du Nord, société tout à fait proche de la nature, la couronne boréale serait le dieu araignée qui surveille la terre depuis sa toile, la voie lactée étant le fil avec laquelle elle descend sur terre. Les Chinois imaginent dans cet astérisme une prison, ou ne serait-ce pas plutôt une muraille qui encercle leur territoire ? Dans la couronne boréale a été observé un phénomène très rare et assez étrange, puisqu'il s'agit d'une nova récurrente. C'est une étoile qui devient brutalement extrêmement brillante, avec une grande augmentation de son éclat, qui peut être de l'ordre de 10 magnitudes. Cette vive luminosité ne dure que quelques jours, et l'étoile reprend ensuite progressivement son éclat initial. L'écrivain Anatole France, dans son jardin d'Épicure, paru en 1894, parle de cette observation, mais sans en connaître la cause. Je cite « Avons vu, en 1866, une étoile s'allumer tout à coup dans la couronne boréale, briller pendant un mois, puis s'éteindre. » Quelques explications. D'abord, le terme « nova », qui vient du latin « novae », nouvelle. Les astronomes qui les découvraient les considéraient comme de nouvelles étoiles, puisqu'elles apparaissaient là où ils ne voyaient pas d'étoiles précédemment. Elles ont ainsi été appelées des « novae ». Certaines novas sont récurrentes. Elles ont subi plusieurs explosions depuis qu'elles ont été observées, avec des intervalles de plusieurs décennies. La plupart, cependant, sont des explosions de grosses étoiles, les supernovas. Mais ça, j'en reparle dans d'autres épisodes. Concentrons-nous aujourd'hui sur les novas récurrentes. Une nova, c'est donc une étoile qui devient très brillante sur un court laps de temps, quelques semaines, quelques mois, et puis qui revient à sa luminosité habituelle, voire qui disparaît, parce que la plupart des novas en fait sont des étoiles qui sont invisibles à l'œil nu. Une nova récurrente, c'est donc une étoile qui connaît régulièrement ces grosses variations de luminosité. La question, évidemment, c'est pourquoi ? Eh bien, les novas sont en général des systèmes binaires, où une grosse étoile, par exemple une géante rouge, est assez proche d'une naine blanche. Cette seconde étoile, petite, avec une forte gravitation, parce que les naines blanches sont très très massives, tend à attirer les couches supérieures de son étoile compagnon. Elle attire l'hydrogène, elle le capture dans son champ de gravitation. Ça fait monter sa température jusqu'à des dizaines de millions de degrés. À un certain moment, la pression et la température de la couche d'hydrogène autour de la naine blanche deviennent assez grandes pour déclencher une explosion thermonucléaire qui convertit rapidement une grande quantité de l'hydrogène en hélium et engendre aussi quelques éléments plus lourds. L'énergie libérée par ce processus expulse les gaz de la couche de surface de la naine blanche dans l'espace et produit un éclat extrêmement lumineux, mais de courte durée. C'est ça qu'on observe depuis la Terre. Une naine blanche peut produire des novas à de multiples reprises, tant qu'il y a de l'hydrogène qui provient de son étoile compagne pour s'accumuler à sa surface. Par exemple, dans la galaxie Andromède, l'étoile M31N2812A explose chaque année à peu près à la même période vers le mois de novembre. Cette particularité a permis aux scientifiques de l'observer avec attention afin de mieux connaître les mécanismes des novas. Et savez-vous que dans la couronne boréale, une nova récurrente est aussi présente. La date exacte de l'explosion de la nova est imprévisible, mais les scientifiques estiment que celle de la couronne boréale pourrait se produire à tout moment entre l'été et septembre 2024. Les astronomes et amateurs d'étoiles du monde entier surveillent déjà de près Te Coronae Borealis. Tout changement dans la luminosité de l'étoile est enregistré, et vous pouvez suivre le fil de cette étoile sur le site web de l'Association américaine des observateurs d'étoiles variables. AAVSO.org, où les amateurs partagent leurs observations. Soyez prudents cependant, car les observations peuvent être un petit peu inexactes et doivent être vérifiées deux fois. Pour gagner du temps, vous pouvez aussi installer des applications comme Starwalk ou Sky Tonight et activer les notifications. Vous serez alors informé rapidement que Te Coronae Borealis a explosé. Ne soyez pas découragé si vous manquez le moment de l'explosion. La nova sera visible à l'œil nu pendant plusieurs jours et pourrait rester bien visible à travers des jumelles pendant plus d'une semaine. Alors, à quoi ressemblera cette nova ? Eh bien, on s'attend à ce que cette étoile Te Coronae Borealis s'illumine jusqu'à la magnitude 2, lors de l'événement nova, la rendant aussi brillante que l'étoile polaire, par exemple. Malheureusement, ou heureusement, nous ne verrons pas l'éruption depuis la Terre. L'étoile ressemblera à un point lumineux ordinaire, une nouvelle étoile. Mais elle rejoindra le panthéon des 200 étoiles les plus brillantes du ciel. C'est un grand changement par rapport à sa magnitude actuelle qui est de 10, où elle est à peine visible avec même des jumelles puissantes. Pendant l'explosion, Te Coronae Borealis sera facilement visible à l'œil nu pendant quelques jours. Alors, est-ce que cette étoile va exploser encore et encore indéfiniment ? Eh bien, en fait, non. À chaque explosion, elle gagne de la masse, et quand la naine blanche atteindra sa masse maximum, elle explosera comme une supernova, c'est-à-dire une explosion de dizaines, de milliers de fois plus puissante que cette nova récurrente. L'explosion détruira complètement l'étoile et contribuera grandement à la création d'éléments chimiques dans l'univers. Certains de ces éléments sont d'ailleurs produits uniquement dans les novas. La présence de lithium dans l'univers, métal qu'on retrouve dans nos batteries de smartphones par exemple, ou dans nos voitures électriques, est étroitement liée aux éruptions de novas. Pensez-y la prochaine fois que vous utiliserez votre téléphone. Et dans notre constellation, la couronne boréale, il y a une autre étoile variable, CR Coronae Borealis. Il s'agit d'une étoile supergéante jaune de faible masse. Sa particularité, c'est que sa luminosité chute de plusieurs magnitudes à intervalles réguliers. L'étoile R brille normalement avec une magnitude d'environ 6, donc ça c'est tout juste visible à l'œil nu, mais à des intervalles allant de quelques années à quelques décennies, elle s'affaiblit jusqu'à atteindre parfois la 15e magnitude. Lors des mois suivants, elle revient graduellement à sa luminosité normale. Ça lui a donné le nom de nova réversible. La cause de ce comportement est attribuée à l'accumulation régulière de poussière de carbone dans l'atmosphère de cette étoile. La soudaine chute de luminosité pourrait être causée par la condensation rapide d'une poussière riche en carbone, similaire à de la suie, conduisant au blocage d'une grande partie de la lumière de cette étoile. Le retour graduel à la luminosité normale résulte de la dispersion de cette poussière par la pression de radiation de l'étoile. Alors si la couronne boréale ne recèle pas de nébuleuse, elle est riche en superamas de galaxies. Nous en avons déjà parlé dans un épisode précédent. Les amas de galaxies sont des regroupements de galaxies. Ceux de la couronne boréale sont distants d'un milliard d'années-lumière. Et ils ne peuvent être observés que par des astronomes professionnels, à l'aide d'instruments puissants. Dans l'un de ces superamas se niche un amas de galaxies remarquable par le nombre et la variété de ces galaxies. Il a été baptisé A2065 et il est célèbre dans la communauté scientifique grâce à Edwin Hubble, qui dans les années 30 le découvrit et l'étudia. Ces observations permirent d'affirmer que la structure de notre univers était en expansion. Il compara ces mesures spectroscopiques à celles faites par un autre astronome, Milton Humason, sur une galaxie d'un autre amas. Il remarqua que le spectre se décalait vers le rouge, et il en déduisit qu'un grand nombre de galaxies s'éloignaient, que la distance entre elles et le volume de l'univers augmentaient. Il put ainsi prouver que l'univers était en expansion. Alors, pour repérer la couronne boréale, repérez d'abord Vega. Vous savez, cette étoile très brillante qui est au zénith au début des nuits d'été. Ensuite, repérez Arcturus. Et Arcturus, c'est l'étoile la plus brillante du Bouvier, que l'on repère facilement grâce à la Grande Ourse. Souvenez-vous, pour trouver Arcturus, il faut prolonger la courbe de la queue de la casserole. Et on tombe sur cette très brillante étoile, on ne peut pas la louper. Et entre Vega et Arcturus, vous trouverez 5 ou 6 étoiles en demi-cercle, avec une étoile plus brillante au milieu, et voilà, c'est la couronne boréale. Et pour repérer T Coronae Borealis, celle qui va donc devenir soudainement plus brillante, on l'espère, à l'automne, il faut aller au bout de ce demi-cercle, du côté de Vega, plus précisément au bord de la constellation d'Hercule. Vous trouverez alors T, qui est juste à côté de Eta, qui est la troisième étoile, après l'étoile la plus brillante du centre de la couronne, qui est Alpheca.